Mes chères sœurs, nous sommes en union, bien sûr, aujourd'hui avec tous les chers paroissiens qui sont dans leur maison et pour qui et avec qui nous prions en ce jour. Nous avons ce beau texte aujourd'hui de l'aveugle né et Jésus interroge, ou plutôt ses disciples d'abord interrogent, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents? Et on entend à la fin, et c'est curieux, comme une forme d'inclusion, on dit en exégèse, on entend « si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché », dit Jésus. Exactement l'inverse. C'est intéressant parce que c'est la question fondamentale sur, finalement, est-ce que le mal que nous faisons sur terre est déjà rétribué ici-bas? Et à l'inverse, le bien que nous faisons est-il déjà rétribué ici-bas? En fait, cette question traverse tout l'Ancien Testament. Au début, on disait « eh bien, si on est riche, que tout nous réussit, que tout va bien, c'est qu'on est quelqu'un de bien. Si on a des problèmes, si on est malade, si on manque tout, etc., on a des épreuves, c'est qu'on a fait un péché, certainement, ou nos parents, ou notre famille, etc. C'est simple, c'est clair, c'est binaire, et tout fonctionne. Sauf que, évidemment, on voit dans l'Ancien Testament, par moments, ça ne marche pas du tout. Il y a l'homme juste qui essaye de vivre les commandements, qui s'efforce de vivre selon la loi du Seigneur, et lui arrivent les pires choses. Le scandale de la prospérité des impies, qui au contraire, eux, font n'importe quoi et ont toute facilité dans ce monde. Et on voit bien que finalement, ce système binaire ne tient pas. Et donc, peu à peu, on entre dans une autre perspective dans l'Ancien Testament, et on voit bien que ces questions, elles habitent encore les contemporains de Jésus avec cette difficile question, mais d'où vient le mal? Et de fait, nous le savons, il y a une réponse dans l'Écriture sainte que le mal vient du péché de nos premiers parents et avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour notre monde. Certes, et donc tout le mal que nous pouvons constater, ce désordre de la création, mais aussi en nous-mêmes, est lié à cette rupture originelle, à ce péché donc de nos premiers parents. Ceci dit, donc, nous ne sommes pas toujours coupables du mal que nous subissons. Évidemment, ce pauvre aveugle né, c'est pas parce qu'il a péché qu'il est né aveugle. Ou une personne qui naît handicapée, ce serait particulièrement odieux de penser que c'est parce qu'elle est pécheresse ou je ne sais quoi, bien sûr. Et nous savons que nous subissons souvent le mal pour une raison qui nous demeure au final inconnue, que nous ne pouvons pas percer, qui demeure un mystère. Ceci dit, il y a un certain nombre de mots, et c'est là où c'est pas si simple, que nous devons à nous-mêmes. Je pense par exemple au cancer du poumon. Alors c'est vrai que vous avez toujours la pauvre personne qui a un cancer du poumon, qui n'a jamais fumé de sa vie, mais quand même, croyez-en un ancien aumônier d'hôpital, hélas, j'ai accompagné des gens jeunes qui avaient beaucoup fumé, et dans des conditions terribles, qui partaient en laissant des enfants jeunes parfois, etc. Et là, on peut pas dire qu'il n'y a pas complètement un lien entre une attitude qu'on a eue, une mauvaise habitude, et puis quelque chose que l'on subit. Pense à la drogue, à l'alcool, au tabac, et tant d'autres choses. Et peut-être aussi même ce que nous vivons aussi, cette épidémie d'aujourd'hui. Bien sûr, on peut pas dire que comme ça, nous subissons parce que nous avons, dans le point de vue de l'humanité, globalement fait un mal. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a en tout cas des situations, des manières d'être, des structures de péché qui font que certainement ça favorise aussi cette épidémie, que ça favorise cette diffusion, ça favorise aussi donc l'apparition aussi de cette maladie, parce que si de fait c'est commencé dans un marché où on mélange les animaux morts, les animaux vivants, les hommes, etc., de fait en des conditions sanitaires terribles, l'homme a une part de responsabilité, très objectivement. Mais on voit bien que cette question, elle demeure, et Jésus, il veut nous faire sortir de cette question parce qu'il ne va pas faire un grand discours sur l'origine du mal, d'où il vient, pourquoi nous subissons les choses. Et il a cette phrase assez énigmatique, mais qui s'éclaire par la suite de l'Évangile. En fait, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Les œuvres de Dieu doivent se manifester à travers quelque chose qui est finalement un mal objectif, quelque chose qui est contraire au bien de l'homme, parce qu'être aveugle, c'est contraire au bien de l'homme, de fait. Et le mal, c'est l'absence du bien. Et le bien, pour l'homme, c'est de voir. Jésus est capable de transformer toute chose, même ce qui est mauvais, même ce qui nous fragilise, même ce qui nous blesse, même ce qui peut nous conduire à la mort. Jésus peut tout transformer toujours pour faire d'un mal un bien. Et n'est-ce pas le principe même de la croix, qui est ce supplice épouvantable et terrible. Quand saint Irénée lit ce texte, il voit en Jésus qui crache par terre et fait de la boue avec sa salive une image extraordinaire du Dieu créateur. Et ça le renvoie à la Genèse et Dieu qui modèle le monde, etc. Et saint Irénée dit ça parce que, bien sûr, vous savez, contre les gnostiques, ils disaient il y avait le vrai Dieu caché là-haut, qui est le Père de Jésus, que nous ne voyons pas, et que Jésus nous révèle par la connaissance, la gnose. Et puis le Dieu inférieur, celui de l'Ancien Testament, là, Yahvé, qui a modelé l'homme, qui se mêle des choses matérielles et terrestres, charnelles. Vous voyez, le vrai Dieu, il est au-dessus de tout ça, évidemment. Et saint Irénée, évidemment, lutte contre les gnostiques, en disant non, c'est le même Dieu, tout ça. Le Dieu inconnu, Père de Jésus, c'est notre Dieu, l'unique Dieu, celui qui nous a créés, celui qui a modelé l'homme de la glaise, et celui qui insuffle dans ses narines le souffle de vie. Oui, même la matière, même la chair, même notre création très concrète, très matérielle, Dieu l'a faite et en est à l'origine. Et donc, il dit, bien, ce Jésus-là, vous voyez, il est finalement celui qui est vrai Dieu venu parmi nous, le Verbe de Dieu, c'est-à-dire co-créateur avec le Père et le Saint-Esprit. C'est une manière aussi de dire que Jésus est vraiment Dieu à l'égal du Père. Et puis en même temps, Jésus, eh bien, on voit là une œuvre qu'il fait comme une œuvre de recréation à travers cet homme qui est aveugle en faisant cette boue avec sa salive et la poussière, la terre, pour remodeler l'homme. C'est une manière de dire que Jésus est venu pour recréer l'homme, le restaurer, le recréer selon la grâce du Seigneur dans son image et sa ressemblance. Mais il n'a besoin d'une part d'être modelé, nous savons, mais vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, Dieu insuffle le souffle dans les narines de l'homme, mais là il l'envoie se laver parce qu'il a aussi besoin du bain de la régénération, et bien sûr c'est le baptême. À la fois Jésus recrée l'homme, lui redonne son image et sa ressemblance, mais comme créateur, et en même temps nous donne ce baptême qui vient guérir ce qu'il y avait à guérir dans l'homme pour que l'homme de nouveau puisse vivent dans l'image et la ressemblance avec Dieu. Ça, c'est le côté Saint-Irénée, très beau, c'est belle exégèse. Et puis, il y a le côté Saint-Augustin. Saint-Augustin, lui, nous dit, eh bien, il y a ce miracle de Jésus que nous constatons, très concret, qui fait passer cet homme des ténèbres à la lumière, qu'il voit avec ses yeux de chair. Mais plus fondamentalement, et c'est la suite du récit, quand Jésus de nouveau rencontre cet homme, il dit, crois-tu au Fils de l'homme? D'ailleurs, saint Augustin, c'est assez amusant, lui, il dit dans son homélie, crois-tu au Fils de Dieu? C'est assez amusant. Bon. En tout cas, peu importe. Mais l'idée, c'est de crois-tu au Fils de l'homme? Crois-tu au Fils de Dieu? Oui, je crois. C'est qui est-il pour le croire? Tu le vois en face de toi. Seigneur, je crois. Et il dit, la vraie lumière, au fond, c'est la foi. La vraie lumière, à travers c'est la médiation de ce miracle très concret de l'homme qui retrouve la vue de ses yeux. Le Seigneur veut le faire passer à une vue plus fondamentale, celle de l'âme, qui est la vue de la foi. Et c'est là que le Seigneur veut conduire cet homme et chacun d'entre nous, puisqu'il est venu pour que nous ayons la foi, que nous cessions d'être des fils des ténèbres, mais comme nous l'avons très bien entendu, vous êtes devenus lumière, vivez comme des fils de la lumière, nous l'avons entendu dans saint Paul, et c'est cette lumière que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Alors, en ce jour, nous qui avons cette grâce d'être baptisés, d'avoir reçu la foi comme un vrai don, une vertu théologale, don au jour de notre baptême, eh bien, soyons dans la joie, parce que cette foi nous donne de saisir déjà un peu, d'ouvrir une fenêtre sur le mystère de Dieu, de saisir quelque chose déjà de ce mystère de Dieu, et mieux encore, d'être saisis nous-mêmes par ce mystère de Dieu. Et nous savons, la joie, c'est le fait de saisir ce que nous désirions, c'est d'arriver à avoir l'objet que nous désirions, eh bien cet objet, quand c'est le plus noble qui soit, le plus grand, le seul qui a la mesure du cœur de l'homme, quand c'est Dieu, eh bien c'est cela qui doit nous donner cette joie parfaite. Et nous voyons bien que si vraiment nous avons la foi, que nous sommes ancrés dans cette foi, c'est la joie qui advient. Et comme le dit Jésus, rien ne peut nous ôter cette joie, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est là le motif de la vraie joie pour chacun d'entre nous. En ce temps difficile que nous vivons, il faut nous le redire, c'est le Christ qui est notre joie, c'est le Christ qui est tout bien parfait pour nous, et rien ne peut nous séparer de lui. Et j'aimerais terminer en vous laissant sur à la fois la joie de Notre-Dame qui accueille le Seigneur Jésus en son sein, on va le fêter cette semaine dans l'Annonciation, mais aussi un petit saint que j'aime beaucoup, il s'appelle le saint Théophane Vénard, et ce saint qui donc, né en 1830, part aux missions étrangères à Paris pour devait aller en Chine, mais son rêve c'était d'aller au Tonkin parce qu'il avait lu quand il était jeune le récit de la mort d'un saint Jean-Charles Cornet, un autre saint qui était de pas très loin de chez lui. Et puis il s'était dit, adolescent, moi aussi j'irai au Tonkin et moi aussi je mourrai martyr. Pas de chance, on l'envoie en Chine. Et au moment où il arrive là-bas, on lui dit, ah, finalement on a changé d'idée, tu vas aller au Tonkin. Et finalement il va au Tonkin. Il avait été ordonné prêtre en France avant de partir. Et là, en arrivant au Tonkin, il a passé quelques années dans la clandestinité, fuyant toujours les persécutions du roi Tuduc et de ses soldats. Et finalement, est fait prisonnier. Dans sa cage de bambou, il écrit des merveilleuses lettres qui ont été publiées immédiatement après sa mort et qu'a lu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est devenue une des premières fans de Saint Théophane, c'est le cas de le dire. Et là, il est décapité le 2 février 1862. Donc par haine de la foi, il meurt martyr et offre sa jeune vie à 32 ans au Seigneur comme prêtre offert tout entier en holocauste au Seigneur. Mais ce que je voulais vous dire, c'est j'aime bien, c'est sa devise, c'est la devise de Saint Théophane dans tout ce contexte d'une vie si difficile, dans tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a souffert au service de ceux à qui il était envoyé. Il avait voulu prendre pour devise pour lui-même, eh bien, vive la joie. Mais bah, c'est pas tout. Vive la joie quand même. Et je trouve que c'est une belle devise que peut-être nous pouvons reprendre à notre compte, chacun d'entre nous, sans oublier que le Christ est véritablement notre joie. Alors malgré tout, envers et contre tout, rien ne peut nous l'enlever, cette joie. Vive la joie quand même, ainsi soit-il.